Donc aujourd'hui on va parler donc d'un sujet donc c'est la souffrance et ce qu'on va essayer de voir donc c'est dans quelle mesure la souffrance donc est un sujet important aussi bien donc d'un point de vue moral que d'un point de vue spirituel, c'est-à-dire on va voir le point de vue des philosophes, des écrivains, ce qu'ils en pensent de la souffrance. Et après, on va voir ce que pense le christianisme de la souffrance, pourquoi la souffrance est importante et dans quelle mesure on peut surmonter ce problème. Ok? Pourquoi le sujet de la souffrance est un sujet important? Donc, pour trois raisons. Donc, premier point, c'est que c'est une question commune. Donc, tout le monde fait face au problème de la souffrance. Tout le monde fait face à des problèmes dans sa vie. Personne n'est épargné par la souffrance. Et donc, ce qui est noté là, c'est que donc aussi bien le croyant que l'athée, ils font face à des problèmes dans leur vie, et du coup, ils sentent une certaine douleur dans leur vie. Donc, ça concerne tout le monde. Deuxième point, c'est que ça a un effet similaire pour tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde, une fois qu'il fait face à un certain problème, il ressent une douleur. Donc, c'est une question commune. Ça a le même effet similaire pour tout le monde. C'est-à-dire que par défaut, nous, étant humains, on a une nature humaine qui est faible. Et donc, quand on fait face à des problèmes, on ressent une souffrance. Mais ce qui est différent, donc, ou bien ce qui distingue une personne de l'autre, c'est la réaction de cette personne. Donc, c'est un problème commun, ça a un effet similaire, mais en même temps, ce qui est différent, c'est la réaction. Donc, moi, peut-être, quand j'ai une certaine maladie, je peux réagir vis-à-vis de cette maladie d'une manière plus sereine, plus je l'accepte, alors qu'une autre personne qui fait face à la même maladie, comme le cancer par exemple, mais elle peut se révolter, elle peut refuser donc cette maladie. Donc c'est une question commune, ça a un effet similaire pour tout le monde, mais ce qui est différent, c'est la réaction donc de chaque personne. Et donc ce qui distingue chaque personne de l'autre, c'est donc comment chaque personne perçoit la souffrance, donc comment ce qu'elle pense de la souffrance, et deuxième point, donc comment elle réagit à la souffrance. Ok? Et donc là, juste deux citations donc de deux philosophes, un grec et l'autre français. Donc là, c'est une citation, donc juste pour montrer que le problème de la douleur ou bien de la souffrance, ça date depuis longtemps, même avant le christianisme, et tout le monde le reconnaît et l'accepte. Donc Épicure, il dit que tout plaisir est de par sa nature même un bien, mais tout plaisir ne doit pas être recherché. Pareillement, toute douleur est un mal, mais toute douleur ne doit pas être évitée à tout prix. Donc, d'après cette citation, c'est qu'il y a certaines douleurs auxquelles on doit faire face et qui sont inévitables dans la vie. Donc ça, c'est ce que signifie cette citation. Donc il y a certaines douleurs inévitables dans lesquelles on doit faire face. Et du coup, même si on doit rechercher, même si le plaisir est par défaut donc bien pour la personne, mais on ne doit pas rechercher tout plaisir. Pareil, toute douleur est un mal, mais il y a certaines douleurs qu'on doit accepter dans la vie. Et puis un deuxième philosophe français, donc il dit que le plaisir est toujours un bien et la douleur toujours un mal, mais il n'est pas toujours avantageux de jouir du plaisir, et il est quelquefois avantageux de souffrir de la douleur. Donc parfois on peut avoir un certain plaisir donc au plaisir de la vie, mais en même temps il y a certaines douleurs qui sont profitables donc aux êtres humains. Ok? Donc là, c'est le plan un peu de ce qu'on va voir. Donc on va voir en premier lieu l'identification de la souffrance. Donc pourquoi, qu'est-ce que c'est la souffrance, quelles sont les formes de la souffrance. Puis on va voir le point de vue du christianisme à la souffrance. Puis dans un troisième point, on va voir donc pourquoi la souffrance est-elle utile, donc aussi bien d'un point de vue moral que d'un point de vue spirituel. Puis comment surmonter la souffrance, et on va terminer donc avec des exemples de la souffrance. Donc l'identification de la souffrance, donc d'après donc les dictionnaires, donc comment ils définissent la souffrance, donc ils la définissent en trois parties. Dans un premier point, ils disent que c'est une sensation, donc c'est un sentiment, quelque chose donc qu'on ressent, physique ou morale, donc il peut avoir deux formes, donc soit quelque chose de physique, de matériel, soit plutôt quelque chose de moral, de sentimental, et qui est pénible. Donc, puisqu'il est pénible, donc il fait mal. Donc, c'est une sensation physique ou morale qui est pénible. Quelles sont les formes de la souffrance? Donc là, c'est pas exhaustif, j'ai juste cité trois aspects donc de la souffrance. Donc, c'est par exemple soit des maladies physiques ou morales, soit des problèmes, par exemple des problèmes matériels, des problèmes sentimentaux, ou bien des discriminations qui sont liées à la religion, à l'ethnie, à la race, au sexe. Donc ça dépend. Donc c'est toutes les formes que peut prendre la souffrance. Ok? Donc une fois qu'on a identifié donc l'idée de la souffrance et les formes de la souffrance, il faut bien voir quelles sont les caractéristiques de la souffrance chrétienne. Donc la souffrance chrétienne a quatre caractéristiques principales. Première caractéristique, c'est que la souffrance est toujours pour notre bien. C'est-à-dire que le christianisme, toujours il dit que si la personne fait face à un certain problème dans sa vie, c'est pour le bien de cette personne. C'est-à-dire que cette souffrance va aboutir d'une manière ou d'une autre à avoir finalement un impact, positif sur la personnalité. Pourquoi c'est pour le bien d'une personne? Parce que par définition, donc d'après l'épître de Saint Jean, c'est que Dieu est amour. Et si Dieu est amour, donc il nous aime. Et s'il nous aime, il ne va pas nous tenter avec un mal qui nous fait mal. Même si a priori ça va nous faire mal, mais au bout du compte, ça va avoir un effet, ça sera pour le bien de la personne. Et donc là, ce qu'il faut distinguer toujours dans cette idée que n'importe quel problème est pour le bien d'une personne, c'est que Dieu, il ne veut pas nous faire mal, mais il le permet. C'est-à-dire, par exemple, avec Job, Ayoub, au début, il voulait pas, Dieu ne veut pas faire mal à Job, parce que lui, il a dit que Job, il est le meilleur être humain sur Terre, mais il a permis qu'il soit tenté par le diable pour son bien, parce qu'il avait un certain sentiment d'orgueil, et du coup, il a permis que Job soit tenté donc par tous les problèmes qu'il a eus pour son bien à la fin. Et donc c'est ça ce qui est cité donc dans le premier chapitre du livre de Job, c'est que l'Éternel dit à Satan: voici tout ce que lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Ce qui signifie que le diable ou bien Satan n'a pu faire ça que ou bien qu'après la permission de Dieu. OK? Et donc ça c'est Abou Daoud donc qui l'a cité donc dans son cours dans la version anglophone du cours, c'est qu'il a dit que Dieu pour nous, il est comme un père, il n'est pas comme un grand-père. Pourquoi comme un père? Parce qu'un père normalement il veut que ses enfants soient bien élevés, bien éduqués. Et du coup, il peut les punir ou bien leur donner des punitions pour leur bien, pour qu'ils soient bien éduqués. Mais pas un grand-père, parce que normalement, un grand-père, il gâte ses petits-fils. Et du coup, Dieu pour nous, il est un père qui veut notre bien, pas comme un grand-père qui veut nous gâter juste pour nous faire plaisir. Ok? Et donc, dernier point dans cet aspect, c'est que donc dans l'épître de Saint Paul aux Romains, il y a donc le verset qui est très connu, c'est donc: nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc on arrête. Donc ça c'est le premier point, c'est que Dieu il autorise tout ça pour notre bien. Deuxième caractéristique de la souffrance chrétienne, c'est que toujours toute personne est tentée selon ses capacités. C'est-à-dire que Dieu ne va jamais donner une tentation ou bien ne va jamais tenter personne au-delà de ses capacités, ou bien c'est-à-dire avec une tentation qui dépasse ce qu'il peut supporter. Et donc ça c'est dans l'épître aux Corinthiens. Saint Paul, il dit: aucune tentation ne vous est survenue qui était humaine, et Dieu est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, première caractéristique, c'est pour notre bien. Deuxième, c'est selon les capacités de chacun. Et troisièmement, c'est que toujours le Seigneur, en nous donnant la tentation, il nous donne aussi le moyen pour en sortir. Donc il nous donne et le problème et la solution en même temps. Ok ? Donc toujours dans la même épître, saint Paul il dit, donc ça c'est le reste du verset, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin donc que vous puissiez la supporter. Ok ? Donc premier point, c'est que Dieu nous la donne pour notre bien. Deuxième, selon les capacités de chacun. Et troisième, il nous donne aussi le moyen d'en sortir. Quatrièmement, et ça donc c'est, on va dire, la partie positive de l'histoire, c'est que la souffrance est toujours suivie d'un certain bonheur, que ça soit terrestre ou bien éternel. C'est-à-dire que, à la version avec des termes qui peut-être qui sont convenables ou bien qui sont appropriés à des non-croyants, comme le dit le proverbe français, c'est que après la pluie, le beau temps. Ou bien la version, on va dire, chrétienne de ça, c'est que toujours n'importe quelle crucifixion est suivie d'une résurrection. Donc, d'ailleurs, c'est ce qu'a dit par exemple saint Paul dans son épître, c'est que si notre foi était juste, s'arrêtait juste à la crucifixion, donc notre foi ne signifie rien. Notre foi ne vaut rien si on n'avait pas de résurrection. Pourquoi ? Parce que tout est en vain sans la résurrection. Et donc ça, c'est justement ce que saint Paul dit, ce que saint Jacques dit, pas saint Paul, c'est que heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime. Donc, toujours la souffrance est suivie d'un certain bonheur. Pourquoi, je l'ai mis d'un certain bonheur en italique, parce que peut-être la personne, elle meurt avant donc d'avoir un bonheur terrestre, mais c'est sûr que si elle supporte la tentation ou bien le problème auquel elle fait face sur terre, donc elle va avoir un bonheur éternel. Ok ? Et donc juste à titre de comparaison, donc là, pareil, dans la même ligne de la relation entre un père et un fils, c'est comme un père qui récompense ses enfants s'ils ont une bonne conduite, donc s'ils ont des bonnes notes, s'ils font pas de bêtises, par exemple. C'est ça, justement, donc, l'idée de la récompense. Ok ? Donc, c'est bien clair que le christianisme, donc, a toute une perception différente de la souffrance. Pourquoi ? Parce que, déjà, l'idée, le sens de la souffrance, c'est que c'est positif, c'est pour le bien d'une personne. Dieu, il nous aide à surmonter la souffrance avec les moyens qu'il nous donne. Ça ne va jamais au-delà de nos capacités. Et c'est sûr qu'il y aura un certain bonheur. Donc, même si ce n'est pas un bonheur sur terre, c'est sûr qu'il y aura un certain bonheur plus tard, donc, à l'éternité. Donc, troisième point qu'on va aborder, c'est pourquoi donc la souffrance, elle est utile. Donc, la souffrance est utile pour deux raisons principales. Donc, on va voir d'abord pourquoi la souffrance est utile d'un point de vue moral, donc d'un point de vue, on vient donc aussi bien aux croyants qu'aux non-croyants, et on va voir après pourquoi c'est important d'un point de vue spirituel. Donc, d'un point de vue moral, pourquoi c'est important ? Donc, la première raison, c'est que la souffrance, normalement, elle aide l'homme à se connaître. Pourquoi elle aide l'homme à se connaître ? Parce que normalement, quand la personne, elle fait face à des problèmes, elle ressent ses limites, elle arrive à bien détecter ses problèmes personnels, ses capacités, dans quelle mesure elle peut supporter certains problèmes dans sa vie. Et c'est ça, donc, c'est un philosophe belge qui s'appelle donc Alfred de Musset qui dit « L'homme est un apprenti, donc quelqu'un qui apprend, la douleur est son maître, et nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. » Donc c'est vrai que toute personne arrive à bien se connaître, à reconnaître ses capacités, ses limites, ses qualités, ses défauts, tout ça, durant les épreuves ou bien les tentations. Deuxième avantage, ou bien deuxième raison pourquoi la souffrance est utile, c'est que la souffrance rend l'homme plus fort. Donc toujours, quand on fait face à des problèmes, on essaye donc de surmonter ces problèmes, et si on essaye de surmonter ces problèmes, on va au-delà de nos capacités normales, c'est-à-dire en période normale, c'est-à-dire des périodes sans problème, on ne mobilise pas toutes nos capacités afin de faire face à des problèmes dans la vie, puisque ce sont des périodes sans problème. Mais une fois qu'on fait face à certains problèmes dans la vie, si on veut le dire, on va puiser dans nos capacités afin donc de surmonter ces problèmes, et du coup, ça rend l'homme plus fort. Et donc, juste une deuxième citation, et là, juste dans tout ce qui concerne le point de vue moral, j'utilise juste des citations et pas des versets de la Bible, parce que c'est moral, donc ça, le bon sens veut ça, ou bien la logique qui convient aussi bien aux athées qu'aux croyants, puisque pas mal de ces gens étaient soit des athées, soit des narcissistes, etc. Mais quand même, ils reconnaissent tous l'importance de la douleur et dans quelle mesure elle améliore l'être vivant. Donc, Henri Conscience, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que c'est dans le feu que le fer se trempe et devient acier, c'est dans la douleur que l'homme trouve la révélation de sa force. Donc, comme on prend le fer et afin de le transformer en acier, il faut le mettre dans le feu. Pareil, pour que l'homme devienne plus fort, il faut donc qu'il passe par une tentation ou bien par un certain problème pour qu'il devienne plus fort. Ok ? Donc, premier avantage ou bien première raison pourquoi la douleur ou bien la souffrance est utile, c'est que ça aide l'homme à se connaître. Deuxièmement, ça rend l'homme plus fort. Et troisièmement, ça unit les personnes. Donc, surtout dans nos sociétés orientales, dans les périodes où il y a des problèmes, tous les gens s'unissent. Et pareil, donc ça, ce qui est noté, donc Corneille, dans son œuvre donc de la Galerie du Palais, il dit que la souffrance a du bon. Les mêmes souffrances unissent mille fois plus que les mêmes joies. Donc ça, c'est Alphonse de Lamartine. Après, donc, ce qui est encore mieux, c'est que la force de l'amour paraît dans la souffrance. Donc toujours, quand il y a un certain problème, les gens arrivent donc à s'entraider, à s'unir, afin de faire face à ces problèmes, et du coup, ça unit les personnes. Ok ? Donc, d'un point de vue moral, pour récapituler un peu, donc la souffrance, elle unit les personnes, la souffrance, elle rend l'homme plus fort, et finalement, elle aide l'homme à se connaître. D'un point de vue spirituel, pourquoi c'est utile ? Donc, d'après aussi bien l'Ancien Testament que le Nouveau Testament, c'est que la souffrance, elle améliore et elle purifie l'homme. Donc, il y a un verset dans le livre de Malachie qui dit « Il s'assiera », donc ça c'est « il », ça revient donc à Dieu, « il s'assiera, fondra et purifiera l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les épurera comme on épure l'or et l'argent ». Donc, juste pour le dire en arabe, donc « f'malachi talata talata » je fakir bezdobt nas, lakin yani bima ma'nana wa yaglis wa yumahhas al-fidda في النار اللي هما اللي في لاوي سبط لاوي يعني ok donc pareil donc c'est vrai que une fois qu'on passe par une certaine tentation dans notre vie on arrive à bien prier à nous rapprocher de Dieu et donc ça nous purifie du péché de nos péchés, ça nous aide à changer de comportement dans notre vie, donc ça purifie l'homme. Et deuxième point, c'est un peu lié au premier point, c'est que ça rapproche l'homme de Dieu. Donc, nos meilleures prières, normalement, émanent des moments de souffrance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on ressent n'importe quelle douleur, par exemple comme ce qui s'est passé au début de l'année, tout le monde faisait sa prière parce qu'il y avait un certain problème. Et donc, les meilleures prières du peuple émane toujours des moments de douleur. Et donc c'est à ce que dit donc Lewis donc dans son œuvre qui s'appelle The Problem of Pain. Donc il parle d'un point de vue spirituel, c'est qu'il dit que Dieu murmure dans nos moments de joie, m'étonne dans nos souffrances. La souffrance est son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. Donc pour l'expliquer un peu, c'est-à-dire que normalement sans problème, Dieu, il murmure donc dans nos oreilles afin de nous approcher de lui. Mais une fois qu'on n'écoute pas sa voix, puisqu'il murmure, donc il parle pas très fort, donc il utilise, si vous voulez, donc les moments de douleur ou bien les moments de souffrance afin de parler donc avec une sorte de micro. Ou bien son mégaphone, afin donc de nous dire voilà, je suis là, repentez-vous, revenez vers moi, et ainsi de suite. Ok ? Donc jusqu'ici, pour ne pas perdre donc le fil de la présentation, donc on a commencé avec la définition de la souffrance, quelles sont les formes de la souffrance, et on a vu donc que soit des maladies, soit des problèmes matériaux, sentimentaux, soit des maladies physiques ou morales. Puis on a vu le point de vue du christianisme dans la douleur, donc on a vu que c'est selon les capacités de chacun, toujours pour le bien d'une personne. Dieu nous donne aussi le moyen pour surmonter la douleur. Quatrièmement, c'est toujours suivi d'un certain bonheur éternel ou terrestre. Puis on a vu pourquoi c'est utile, donc d'un point de vue moral, c'est que ça rend l'homme plus fort, puisqu'il fait face à des problèmes dans sa vie et il essaye donc de puiser dans ses capacités. Deux, ça unit les personnes. Et trois, donc ça aide l'homme à se connaître et à bien repérer ses limites, ses capacités, ses qualités, ainsi de suite. D'un point de vue spirituel, donc ça purifie l'homme et ça l'améliore puisqu'il s'approche de Dieu. Et justement, le deuxième point, c'est qu'il s'approche de Dieu surtout durant les moments de douleur. Comment surmonter la souffrance ? Donc normalement, pour surmonter la souffrance, il y a trois étapes successives. Premièrement, donc, il faut déjà identifier la source de la souffrance. Est-ce que c'est une source interne, donc qui est liée à ma personne, ou bien est-ce que c'est une source externe ? Est-ce que, par exemple, on est dans un état ou un pays qui déteste, par exemple, ou bien qui persécute les chrétiens, ou bien les juifs, comme à l'époque ? Donc ça, c'est une source de souffrance externe. Mais par exemple, une source de souffrance interne, ça peut être un péché, une maladie. Donc c'est lié vraiment à la personne elle-même. Ok ? Donc, identifier la source de la souffrance. Puis, en deuxième étape, identifier les causes de la souffrance. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je souffre ? Est-ce que c'est parce que j'ai fait un certain péché dans ma vie, comme par exemple Job, qui avait un péché qui est lié à son orgueil ? Ou bien est-ce que c'est une cause externe, donc je ne peux rien faire, je la subis et c'est tout, comme une pression, une discrimination. Et donc, et c'est justement ça, c'est qu'une fois on va déterminer les causes de la souffrance, on peut très bien déterminer comment réagir vis-à-vis de cette souffrance. Parce que si c'est un problème, ou bien si c'est une souffrance interne, donc s'il y a ma personne, donc peut-être c'est un péché. Du coup, pour résoudre ça, il faut que je me repente. Donc, il faut qu'il y ait un repentir ou bien une repentance. Mais si c'est externe, peut-être essayer d'utiliser tous les moyens disponibles afin de surmonter cette situation que la personne subit. Ok ? C'est-à-dire, donc, dans tous les cas, que ça soit externe ou interne, d'un point de vue chrétien, et donc là c'est pour ça, c'est en deuxième lieu, parce que déjà en premier lieu c'est pour toutes les personnes, aussi bien croyantes que non-croyantes, mais après c'est plutôt d'un point de vue chrétien ou bien spirituel, c'est que la personne ne doit pas être passive, donc il faut faire quelque chose, donc il faut, si c'est interne, il faut que je me repente, il faut que j'arrive à bien repérer quels sont mes défauts afin de les résoudre, il faut être pratique. Donc, comme le proverbe le dit, il ne sert à rien de pleurer sur du lait versé. Donc, je ne vais pas dire je suis malade, voilà, je suis malade, je ne vais rien faire, je vais supporter ça et je ne fais rien. Donc, ça ne sert à rien de pleurer sur du lait versé, mais il vaut mieux être pratique, positif, afin de surmonter cette situation. Troisième point, et qui est lié plutôt surtout à nos chrétiens, c'est prier. Et c'est justement ce que dit saint Paul donc dans son épître aux Éphésiens, c'est que faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc, puisqu'il dit en tout temps, c'est-à-dire en temps de joie et en temps de douleur. Donc, aussi bien dans les moments de joie que dans les moments de détresse ou bien de tentation et d'épreuve. Et quatrième point, et ça vraiment c'est ce qui distingue une vraie personne chrétienne de n'importe quelle autre personne, c'est être confiant et avoir donc la vraie foi que Dieu est tout-puissant. Donc, comme le mot donc en grec le dit, le pantokrator, c'est-à-dire dans Bottle Call, c'est que il faut toujours avoir donc la bonne foi que le Seigneur est tout-puissant, que cette épreuve ou bien cette tentation, c'est lui qui même s'il veut pas me faire mal, mais lui il l'a permise juste pour mon bien. Et donc, c'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, ça sera pour mon bien, et donc il va me donner plus tard le bonheur. Et il y a une citation qui est vraiment très très appropriée à ça, et que le Bobo Schnoud a dite, c'est que si tu places l'épreuve entre Dieu et toi-même, Dieu disparaîtra et l'épreuve sera dominante. Mais si tu places Dieu entre l'épreuve et toi-même, donc c'est Dieu qui sera dominant, c'est l'épreuve qui va disparaître. Ok ? Donc c'est ça justement l'idée d'avoir être, on va dire, conscient et croire dans la puissance de Dieu. Ok ? On va passer donc à la quatrième partie. Donc, quels sont les exemples de la souffrance chrétienne ? Évidemment, l'exemple par excellence, c'est l'exemple de Seigneur Jésus. Donc, c'est vraiment la personne qui a souffert tout au long de sa vie, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Donc, il est né dans une étable, mangeoire. C'était dur, il a souffert dans sa mère a souffert pour l'accoucher, puis ou bien pour l'enfanter. Puis sa vie était vraiment une série donc d'épisodes douloureuses. Donc dans l'évangile de Saint Luc, il dit que le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Donc c'était vraiment une vie douloureuse. Tout le monde le refusait. Le peuple juif le refusait. Il supportait toute cette douleur. Et même sa mort, elle était vraiment la mort la plus désastreuse. C'était avec une croix, avec des voleurs. Il n'a rien fait, mais c'était toute une série de souffrances dès la première minute jusqu'à la dernière. Ok ? Ainsi, notre Seigneur, donc, est par excellence, comme le dit Esaïe dans son livre « Homme de douleur » et « Habitué à la souffrance ». Donc, si le Seigneur, notre Dieu, qui n'a rien fait dans sa vie, est homme de souffrance, donc c'est bien clair que nous aussi, qui sont pécheurs, qui font plein de péchés dans nos vies, qu'on supporte aussi ces péchés, ces douleurs ou bien ces souffrances. Ok ? Et c'est ça ce que dit saint Paul dans son épître aux Hébreux, c'est que pourquoi Dieu il autorise donc qu'on supporte toutes ces souffrances ou bien toutes ces douleurs, parce que comme lui il a supporté ces douleurs. Il a supporté ses souffrances, donc c'est tout à fait normal que nous aussi, nous supportons ses douleurs. Et donc c'est ce qu'il dit dans ce verset, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Donc, puisque lui, il a été tenté, il a supporté la douleur et la souffrance, donc c'est-à-dire qu'il comprend très bien cette situation, il va nous aider à la surmonter puisqu'il l'a déjà essayé avant nous. Et après, donc dans la même épître, il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, mais au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Ok ? Voilà. Et donc là, je vais prendre juste un extrait d'un livre, vraiment une parmi les meilleures œuvres que j'ai lues, qui s'appelle « Oscar et la Dame Rose ». C'est un livre qui raconte l'histoire d'un petit enfant. Ce petit enfant, il avait donc une maladie très 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 dure, donc il avait un cancer, et il était athée, il croyait pas en Dieu. Il était hospitalisé donc dans un pensionnat, et comme il ne croyait pas en Dieu, il avait aucun espoir dans sa vie. Voilà, ma vie va se terminer. Et juste pour vous dire qu'il avait 11 ans. À l'hôpital, il y avait une dame qui s'appelle donc Mamie Rose. Elle portait donc une robe rose et elle a parlé avec lui comme ça, en lui disant donc pourquoi tu te sens mal, quels sont tes problèmes, et ainsi de suite. Et elle lui a proposé donc d'écrire des lettres à Dieu. Et donc ce livre, il se compose de 12 lettres adressées à Dieu. Et vraiment, on voit l'esprit d'un enfant qui parle à Dieu. Par exemple, il commence ses lettres en disant « Cher Dieu », et lui parle en lui disant « Voilà, moi je m'appelle Oscar, j'ai un cancer, je souffre, je te demande de... C'est-à-dire, il lui raconte sa vie, sa journée, ainsi de suite, ce qu'il veut faire. Et à la fin de la lettre, il lui dit « À demain, bisous, Oscar ». Donc c'est vraiment une lettre d'un enfant qui raconte de manière très spontanée sa vie à Dieu. Et donc on voit bien, ce qui est bien clair dans le livre d'Oscar et la Dame Rose, c'est l'évolution donc d'Oscar. C'est-à-dire, au début, il ne croyait pas en Dieu. Au bout d'un certain moment, il commence à demander à Dieu des choses immatérielles, donc par exemple des éclaircissements pour sa vie. Est-ce qu'il sera guéri ou non? Est-ce que Dieu peut guérir une de ses amies à l'hôpital? Et ainsi de suite. Puis vers le 25 décembre, comme c'était Noël catholique, donc il demande à Dieu, Dieu, aujourd'hui donc c'est ton anniversaire. Pour te reposer, je ne vais pas te demander quelque chose, mais c'est à moi de t'offrir quelque chose parce que c'est ton anniversaire. Et ce que lui a proposé donc Mamie Rose en ce jour, c'est elle lui a dit « Oscar, qu'est-ce que t'en penses si on va ensemble pour visiter Dieu chez lui ?» Et donc elle lui a pris, elle a pris le petit Oscar dans à la chapelle donc de l'hôpital et à sa surprise, il ne s'attendait pas du tout à un Dieu pareil. Donc il a vu un Dieu crucifié, sa tête penchée, vraiment très douloureux, qui ne supportait pas du tout la douleur. Et lui, il avait en tête plutôt un Dieu, ça serait, donc c'est quelqu'un de très fort, c'est quelqu'un de, on va dire, qui ressemble à un roi sur une sorte de trône, mais pas une personne très faible, crucifiée, penchant la tête et ainsi de suite. Et donc, Oscar, donc, c'est ça ce qu'il a dit une fois qu'il a vu le Seigneur, donc le Saint Sauveur, donc sur la croix. Donc, Oscar pensant donc en sa tête et en parlant à Dieu. Donc, ça m'a fait un choc quand j'ai vu ta statue. Enfin, quand j'ai vu l'état dans lequel tu étais, presque tout nu, tout maigre sur ta croix, avec des blessures partout, le crâne qui saigne sous les épines et la tête qui ne tenait même plus sur le cou. Ça m'a fait penser à moi, ça m'a révolté. Si j'étais Dieu, moi, comme toi, je ne saurais pas me laisser faire. Et donc c'est lui vraiment, il parle parce qu'il ne s'attendait pas du tout à un Dieu pareil. Et il n'a pas pu garder ça pour lui. Il a partagé avec Mamie Rose. Il lui a dit, Mamie Rose, sois sérieuse, parce qu'en fait, Mamie Rose, elle lui a fait une histoire imaginaire. Elle lui a dit que je suis catcheuse molakme. Enfin, il lui a dit, Mamie Rose, vous êtes catcheuse, vous êtes forte, vous êtes sérieuse dans votre vie, est-ce que vous croyez que Dieu peut être de cette faiblesse? Et donc il lui dit, soyez sérieuse, vous qui êtes catcheuse, vous qui avez été une grande championne, vous n'allez pas me faire confiance à ça. Donc il dit même pas à Dieu, c'est à ça, donc il vraiment le méprise, parce que c'est pas normal que Dieu ait cette forme. Et alors lui, elle lui répond, pourquoi Oscar? Et là c'est vraiment la partie clé de l'histoire. Accorderais-tu plus de crédit à Dieu si tu voyais un culturiste, donc quelqu'un vraiment qui a des muscles partout, avec le bifteck ouvragé, le muscle saillant, la peau huilée, donc vraiment quelqu'un qui fait du catch? Alors lui, il n'arrive pas à la répondre et elle lui dit, réfléchis Oscar, de quoi te sens-tu le plus proche? D'un Dieu qui n'éprouve rien ou d'un Dieu plutôt qui souffre? Alors lui, comme lui, il souffre dans sa vie d'une maladie qui est donc le cancer, il lui dit évidemment de celui qui souffre. Mais si j'étais lui, si j'étais Dieu, si comme lui j'avais les moyens, j'aurais évité de souffrir. Et donc il lui raconte un peu une histoire et au bout du compte il lui dit mais déjà pourquoi est-ce qu'on doit souffrir? Alors elle lui répond justement, Oscar, il y a donc deux souffrances. Il y a une souffrance et souffrance. Une souffrance, donc plutôt je vais le dire plus tard. Donc pour lui expliquer ça, elle lui dit regarde mieux son visage. Et quand il a regardé son visage, il a remarqué vraiment que le visage du Christ sur la croix, vraiment paisible, il n'y avait aucun sentiment de douleur. Et observe, est-ce qu'il a l'air de souffrir? Alors lui, il lui répond non, c'est curieux, il n'a pas l'air d'avoir mal. Voilà, il faut donc distinguer deux peines, mon petit Oscar, ou bien donc la souffrance physique, donc qu'on subit, qu'on peut rien faire, on la subit et c'est tout. Mais il y a la souffrance morale qu'on choisit. C'est-à-dire que même si le Christ il a subi la souffrance physique, il a été crucifié, il a été cloué, mais il a choisi aussi en même temps d'accepter ceci, donc à bon gré, afin donc de nous sauver. Donc il a plutôt le Seigneur, il n'a pas choisi la souffrance morale, c'est-à-dire il a plutôt choisi la paix morale ou bien la sérénité. Après donc le Seigneur qui est l'exemple le plus important de souffrance dans le christianisme, on va voir donc une série de personnes qui ont souffert dans la Bible. Donc on commence par l'Ancien Testament. Évidemment, donc les premières personnes qui ont souffert sont Adam et Ève. Donc après qu'ils ont donc succombé dans le péché originel, Dieu il a dit à Ève, il dit à la femme, j'augmenterai donc la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. Et puis il dit à l'homme, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras la nourriture de tous les jours de ta vie. Donc dès le début, la souffrance était une sorte de, on va dire, d'un certain châtiment de, comment ? Donc d'un certain châtiment que l'homme allait supporter. Puis Joseph aussi, il a souffert, mais évidemment, vraiment l'exemple de Joseph, il montre dans quelle mesure tout problème dans la vie va au bout du compte, donc aboutir au bien de la personne, parce que c'est ce qu'il a dit à ses frères une fois qu'ils se sont vus en Égypte. Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé donc en bien. Ok. Troisième personne, donc Job, qui est vraiment l'un des symboles les plus importants donc du Christ dans l'Ancien Testament. Et il dit, oh, s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Donc, voilà donc un autre exemple de l'Ancien Testament pour une personne qui a souffert et dont les souffrances ou les douleurs étaient nettement insupportables. Abraham, qui a été tenté par une épreuve très dure, il n'avait qu'un seul fils, qu'il a attendu des dizaines et des dizaines d'années. Et après donc, qu'il a eu son enfant, Dieu lui a dit, voilà, du jour au lendemain, tu vas m'offrir ton fils que ta tante a attendu. Et c'est ce que dit Saint Paul donc dans l'Épître aux Hébreux, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Donc ça nous montre aussi que si on est soumis au Christ ou bien au Seigneur pendant le moment de souffrance, ça nous rassure, ça nous aide à vraiment être confiant que ça va aboutir à notre bien au bout du compte. Dans le Nouveau Testament, il y a plein de personnes, mais évidemment la personne la plus importante, c'est la Sainte Vierge, qui donc Saint Siméon lui a dit le jour où ils ont présenté le Seigneur au temple, c'est Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, donc, à toi-même, une épée te transperça l'âme. Et vraiment, si on observe la vie de la Vierge Marie, elle était aussi toute une série de douleurs. Donc déjà, elle est restée dans le temple à partir de son enfance, toute seule. Elle a subi, on lui a dit donc qu'elle ne va pas se marier, elle sera juste fiancée donc à un monsieur donc âgé, qui est donc Saint-Joseph. Elle a accouché son enfant dans des conditions très dures. Pendant les 30 ans de service du Christ, elle était sûre et certaine que du jour au lendemain, après ses 33 ans, on va le crucifier et elle ne pourra pas donc rester avec son fils. Donc c'était vraiment... puis il a été crucifié, il est monté aux cieux et elle est restée donc seule. Donc c'était, on va dire que dans une certaine mesure, sa vie, elle était... rempli de plein de douleurs. Puis les disciples et les apôtres, eux aussi, ont fait face à plein de souffrances dans leur vie. Et donc, dans les Actes des apôtres, ils disent que donc les apôtres se retirèrent donc de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Saint Paul, donc, qui a aussi lui, qui avait plein de souffrances, surtout avec donc, on va dire, la maladie physique qu'il avait. Et donc on voit bien que dans l'Épître aux Corinthiens, il dit qu'il m'a été mise une écharde, les choka, dans la chair un ange de Satan pour me souffleter de m'empêcher de m'enorgueillir. Donc, c'est-à-dire que même Saint Paul, il était très bien conscient que les douleurs et les souffrances qu'il a dans sa vie, c'est pour son bien. Pourquoi ? Parce qu'il dit, afin donc d'éviter que je succombe dans des problèmes d'orgueil ou donc de m'enorgueillir. Trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et évidemment, quand il demandait ça au Seigneur, il lui demandait ça pourquoi ? Pour qu'il puisse servir le Seigneur de manière plus efficace. Mais Dieu, il n'a pas accepté. Il lui a dit non, ça sera mieux pour toi de rester avec cette écharpe dans ta chair. Mais le Seigneur, donc, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit, ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ok ? Pour terminer, donc, évidemment, l'exemple des martyrs qui ont choisi, donc, on va dire, donc, de toute bonne volonté de donner leur vie à Seigneur et de la présenter une sorte d'offrande en supportant tous les problèmes externes pendant le martyrisme romain et ainsi de suite. Et donc ça, c'est vraiment juste une vue globale, générale, de l'Ancien et du Nouveau Testament, des personnes qui ont subi des souffrances et des douleurs dans leur vie, qui l'ont bien accepté avec sérénité, et toutes ces personnes, donc le facteur commun entre eux, c'est que, donc c'est vraiment les quatre points qu'on a vus tout au début, ils croyaient que cette douleur ou bien cette souffrance est pour leur bien. Ils étaient confiants qu'à la fin de la souffrance, il y aura un certain bonheur, donc il y aura une certaine résurrection après la crucifixion, si vous voulez. Puis, troisième point, c'est que c'est selon les capacités de chacun d'eux, et Dieu va les aider à les surmonter. Et donc là, vraiment, pour terminer avec cette présentation, il y a donc la citation de Marc Aurèle, donc de l'époque des Romains, qui a donc prié une prière vraiment très, très adéquate à la souffrance. Donc il disait que « Mon Dieu, donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer. » Donc ce que je peux changer dans ma vie, que ce soit aussi bien au niveau de la souffrance que des choses normales, aide-moi à avoir donc le courage pour changer ça. Puis la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Et finalement la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Ok ? Donc ça, c'est juste là où on peut trouver vraiment qu'on parle de la souffrance. Donc le livre de Job, qui est vraiment une référence importante dans la Bible qui parle de la souffrance. Les deux épîtres de Saint Paul aux Hébreux et de Saint Jacques, et l'épître de Saint Jacques, dans plusieurs instances, parlent de la souffrance. Puis là, c'est le livre que j'ai cité tout à l'heure, donc Oscar et la Dame Rose, qui est écrit par Eric Emmanuel Schmitt. Et les deux cours donc qui ont été faits par Rami Shlif et Abou Nadaou dans le cours anglais. Et voilà, gloire à Dieu éternellement.